Mes frères, voici les annonces de ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de la Passion, en signe de deuil, à l'approche de la Passion et de la Semaine Sainte. Les Gloria Patri de l'Asperges Mei, de la Messe et des Réponds de l'Office sont supprimés et les statues des saints sont couvertes d'un voile violet. Le crucifix lui-même est voilé, en écho à l'évangile de ce jour où notre Seigneur doit se cacher pour ne pas être arrêté avant l'heure fixée par la Trinité de toute éternité. Cette messe de 9h est offerte pour les fidèles qui fréquentent le couvent, pour qu'ils soient des chrétiens de l'Évangile, comme dit le Père Emmanuel, et non pas des chrétiens mondains. À la sortie des messes, Monsieur Vario se tient à votre disposition dans la librairie pour la bibliothèque de prêt. Les livres sont prêtés pour une durée de 3 mois et le prêt est gratuit. À 18h, vêpres et salut du Saint-Sacrement. Entre les vêpres et le salut, nous ferons la procession du Très-Saint-Rosaire, traditionnelle dans notre ordre, le premier dimanche de chaque mois. Toute cette semaine, messe à 6h30 et 10h. Mardi prochain, 4 avril, à 8h30, aura lieu la réunion de la Société de Jésus couronnée d'épines pour promouvoir la modestie et la charité fraternelle. Le thème traité sera le même que samedi dernier. Cette réunion est ouverte aux dames et aux jeunes filles. À ce propos, en 1961, parlant des modes féminines immodestes qui se répandaient déjà, que dirait-elle aujourd'hui, sœur Lucie de Fatima écrivait ceci, citation, « Ces modes sont une véritable folie et une arme diabolique dont on se sert pour détruire la moralité chrétienne et perdre les âmes, et les corps aussi, puisque le corps participe au malheur de l'âme dans ce monde et dans l'éternité. Pour le moment, les gens ne veulent pas penser sérieusement à l'au-delà, pour ne pas être tourmentés par les remords de conscience, mais le temps passe, et qu'on le veuille ou non, on est forcé de passer dans l'éternité. À quoi leur serviront alors toutes ces vanités? Pourquoi ne forme-t-on pas des groupes de dames et de jeunes filles qui travailleraient dans ce sens en commençant par donner l'exemple ?» Fin de citation. Bien, c'est précisément l'objet de cette petite association. Ce même mardi 4 avril à 19h30 à Biblia, cours d'Histoire Sainte, le programme en est arrivé au règne de Salomon. Mercredi 5 avril, fête de Saint-Vincent Ferrier de l'Ordre des Frères Prêcheurs, la messe sera chantée à 10h. Prédicateur du jugement dernier à l'époque du grand schisme d'Occident, Saint-Vincent Ferrier convertit une multitude de peuples et un grand nombre de juifs et de musulmans. On peut vénérer ses reliques dans la cathédrale de Vannes. Jeudi et vendredi prochains sont les premiers jeudis et vendredis du mois. Jeudi 6 avril à 8h30, messe des moments. Nous vous rappelons le pèlerinage à Fatima du 28 avril au 1er mai pour le centenaire des apparitions. Pour les renseignements et les inscriptions, s'adresser au Père Angelico. Sur notre table de presse, vous trouverez une année avec Fatima du Père Ange Marie. Ce sont des méditations pour tous les jours de l'année à partir des écrits de Sœur Lucie et de récits de témoins de l'époque. Et puis en préparation de la Semaine Sainte, nous vous recommandons la Passion de Jésus-Christ selon le chirurgien du docteur Pierre Barbet. C'est une très belle méditation, un très beau chemin de croix sur la Passion de Jésus. Dimanche prochain, 9 avril, sera le deuxième dimanche de la Passion ou dimanche des rameaux. Attention, les messes auront lieu à 7h30 et 10h. Il n'y aura pas de messe à 9h ni à 10h45. Donc uniquement 7h30 et 9h. La bénédiction des rameaux et la procession auront lieu à 9h30 précises et seront suivies de la messe. Merci de ne pas stationner au milieu du parking pour laisser le passage de la procession. Et il n'y aura pas de sermon à cette messe à cause du chant de la Passion. Les horaires de la Semaine Sainte sont affichés sous le portique. Prévoyez bien dès maintenant votre emploi du temps pour pouvoir venir au maximum d'offices. Ceux du soir sont accessibles même aux enfants. Les premiers rangs leur seront réservés. Enfin, nous remercions toutes les personnes qui le peuvent de bien vouloir apporter des fleurs pour orner le reposoir du Jeudi Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous continuons notre étude du Concile de Trente. Après avoir traité du sacrement de pénitence dimanche dernier, le Concile de Trente s'est penché sur le sacrement de l'extrême-onction. Et d'abord, dans un préambule, il situe ce sacrement de l'extrême-onction dans toute l'économie sacramentelle et montre qu'il est comme le prolongement du sacrement de pénitence. Le sacrement de l'extrême-onction, dit le Concile, est la consommation, on pourrait dire le couronnement, non seulement de la pénitence, mais de toute la vie chrétienne qui doit être comme une perpétuelle pénitence. Et en effet, c'est le dernier des sept sacrements, celui que nous recevons avant de mourir, celui qui nous aide à sortir de cette vie, dit le Concile, par le chemin le plus sûr et le plus facile pour aller au ciel. Ensuite, toujours dans ce préambule, le Concile nous dit quel est le but de ce sacrement, le but de l'extrême-onction. Comme tous les sacrements, c'est un remède, une protection, un secours surnaturel pour nous prémunir contre les maux qui nous menacent. Mais ici, ces maux, ce sont les efforts que déploie le diable pour perdre les âmes à l'heure de la mort. Voici ce que dit le Concile. Il n'y a aucun temps auquel le démon s'efforce davantage de mettre en œuvre les ressources de ses ruses pour nous perdre entièrement et nous détourner de la confiance en la divine miséricorde que le moment où il nous voit prêts à quitter la vie. Et donc il est tout à fait convenable que l'Église nous donne, dans ces heures si difficiles d'angoisse, de menace, un sacrement pour apporter à nos âmes un puissant réconfort et toutes les grâces nécessaires pour faire une bonne mort. Ayant ainsi précisé ces deux points, le Concile va réfuter les erreurs des protestants et surtout exposer la doctrine catholique sur l'extrême-onction. Et cela en trois petits chapitres qui traitent tour à tour d'abord de l'institution et de la nature de l'extrême-onction, puis de son effet, et enfin de son ministre et du temps où il doit être conféré. Voyons d'abord l'institution et la nature du sacrement de l'extrême-onction tel que nous l'enseigne le Concile de Trente. Le Concile déclare que l'extrême-onction a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, comme tous les autres sacrements, et qu'elle est promulguée par saint Jacques. Les mots ici ont été soigneusement choisis. C'est en effet dans l'épître de saint Jacques qu'on trouve le passage de l'Écriture qui nous parle de l'extrême-onction. Je vous lis ce petit texte. Vous le connaissez sans doute. Si vous avez déjà assisté à une cérémonie d'extrême-onction, le prêtre, après avoir donné les onctions aux malades, dit une prière dans laquelle ce texte se trouve tout entier. Voici ce texte. « Quelqu'un est-il malade parmi vous ?» dit saint Jacques. « Qu'il fasse venir les prêtres de l'Église et qu'il prie sur lui, ces prêtres, l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de la foi, c'est-à-dire la prière faite avec foi, sauvera le malade et le Seigneur le soulagera et s'il est en état de péché, ses péchés lui seront remis. » Les protestants nient que l'extrême-onction soit un sacrement. Vous savez que pour eux, il n'y a que deux sacrements, et ce sont des sacrements bien diminués, qui n'ont plus du tout la signification des sacrements catholiques. Il n'y a plus que le baptême et la scène, qui n'est pas la messe. Donc les protestants ne voient dans l'onction dont parle saint Jacques qu'une invention humaine, ou tout au plus un rite reçu des pères, de la tradition si vous voulez, est consacré abusivement par l'Église. L'Église aurait, d'une manière tout à fait arbitraire, déclaré qu'il y avait là un sacrement. Mais pour les protestants, ça n'est pas quelque chose qui est d'institution divine. Et donc, l'extrême-onction n'apporte aucune grâce à qui la reçoit. Aucune grâce. Alors, à cette objection, le Concile répond que l'extrême-onction est bien d'institution divine. en disant « c'est un sacrement vrai et propre du Nouveau Testament ». Et la raison donnée, c'est que ce sacrement est déjà insinué par saint Marc dans l'évangile de saint Marc au chapitre 6e, lorsque saint Marc rapporte l'épisode de l'envoi des 12 en mission. Jésus a envoyé ses apôtres en mission, et ses apôtres, dit saint Marc, expulsaient de nombreux démons, faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Il y a là, évidemment, une allusion tout à fait claire au sacrement de l'extrême-onction institué par notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jacques n'a donc pas inventé cette onction. En fait, il se contente de promulguer en l'expliquant ce que notre Seigneur avait lui-même institué. Et c'est ce que dit le Concile. Voici ses paroles. « Par ces mots de Saint Jacques que l'Église a reçus comme de main en main de la tradition des apôtres, elle a appris et elle nous enseigne quatre choses. La matière, la forme, le ministre propre et l'effet de ce salutaire sacrement. » Et effectivement, dans les paroles de saint Jacques, on trouve bien ces quatre choses. Alors disons juste un petit mot sur la matière et la forme de ce sacrement. La matière, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive qui a été consacrée par l'évêque le jeudi saint. Vous savez que l'évêque, le jeudi saint, consacre trois huiles. L'huile des malades, précisément celle qui va servir pour l'extrême onction, l'huile des catéchumènes qui sert dans le baptême, et le synchrème qui sert à plusieurs reprises, notamment pour l'ordination des prêtres ou la consécration des évêques, ou même la consécration des églises, et puis aussi dans le baptême. Dans le baptême, il y a une onction avec le synchrème. Cette matière de l'huile d'olive exprime parfaitement les effets du sacrement dans l'âme, car de même que l'huile adoucit les douleurs du corps, quand quelqu'un est brûlé, on lui met de l'huile pour soulager la douleur. L'huile renouvelle les forces du corps. Et bien de même, le sacrement de l'extrême onction diminue les tristesses de l'âme et fortifie l'âme à l'approche de la mort. Disons un mot sur la forme maintenant. Et là, il y a quelque chose d'un petit peu original. Vous noterez que dans ce sacrement, la forme n'est pas impérative, comme dans les autres sacrements. Quand le prêtre vous donne l'absolution, il dit « absolvote ». C'est presque un commandement, d'une certaine manière. « Je t'absous ». C'est une affirmation, en tout cas. Ou encore, dans le baptême, « ego te baptizo », »,« je te baptise ». Ici, la forme est exprimée sous forme de prière, comme le dit saint Jacques, que les prêtres prient sur le malade. C'est une prière. Et le prêtre, en effet, lorsqu'il fait les six onctions sur les organes d'essence du malade, dit, donc à six reprises, que par cette onction et sa très sainte miséricorde, le Seigneur vous pardonne tout ce que vous avez fait de mal par la vue, pour la première onction, par l'ouïe, pour la deuxième onction, qui se fait sur les oreilles, par l'odorat, pour la troisième, qui se fait sur le nez, par le goût et la parole, pour la quatrième, qui se fait sur la bouche, par le toucher, qui se fait sur les mains, et par la marche, qui se fait sur les pieds. Donc vous voyez que c'est une prière. Mais que ce soit une prière n'empêche pas du tout que le sacrement agisse, comme on dit, ex opere operato, c'est-à-dire non pas par mode de souhait, mais d'une manière absolue. Dès lors que les faits sont posés, que la forme et la matière sont unies, le sacrement opère. Mais il convenait dans ce sacrement que la forme soit exprimée ainsi, de manière déprécative, tout en obtenant absolument son effet. Parce que, explique le catéchisme du Concile de Trente, pour l'un des effets de ce sacrement, l'effet qu'on appelle secondaire, celui qui consiste à rendre la santé physique au malade, c'est un résultat qui reste conditionnel. Il y a bien des cas où le malade ne recouvrera pas la santé, parce que l'effet essentiel de ce sacrement, c'est de fortifier l'âme en vue de la mort. Dieu ne rend la santé que si cela est expédient pour le salut du malade. Alors comme cet effet n'est pas obtenu systématiquement, il était souhaitable, convenable, que la forme de ce sacrement soit exprimée de manière déprécative, sous forme de prière. Disons un mot maintenant de l'effet du sacrement de l'extrême-onction. C'est le deuxième chapitre. Pour les protestants, l'extrême-onction n'étant pas un sacrement, elle n'apporte aucune grâce à qui la reçoit. Et même certains protestants ont prétendu que cette onction évoquée par saint Jacques n'était rien d'autre que le charisme de guérison physique des malades qui existait dans la primitive Église. Vous savez que dans l'Église primitive, Dieu avait accordé à certains membres éminents de la communauté, de l'Église, une grâce qu'on appelle gratis datin, c'est-à-dire un charisme, une grâce transitoire, passagère, qui était conférée pour le bien de la communauté. Il fallait notamment au début de l'Église qu'il y ait beaucoup de miracles, qu'il y ait des grâces ainsi tout à fait spéciales, parce que l'Église avait besoin de s'étendre. Il fallait qu'il y ait beaucoup de conversions. Alors le bon Dieu avait, dans sa miséricorde, accordé ces grâces temporairement. Notez d'ailleurs que cette interprétation protestante, qui consiste à ramener l'extrême onction donc à ce charisme de guérison, on la retrouve aujourd'hui, elle refait surface dans les groupes qu'on appelle pentecôtistes ou charismatiques et qui pratiquent des séances de guérison collective et qui prétendent bénéficier du don de guérison qui existait dans l'Église primitive. Il faut noter à ce propos que nous avons tout lieu de penser que les phénomènes extraordinaires qui arrivent dans ces séances, car il y a des phénomènes extraordinaires, sont en réalité des manifestations préternaturelles diaboliques. Il faut s'en méfier comme de la peste. Le bon Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas accorder des grâces dans des structures qui ne sont pas catholiques. Alors le Concile condamne cette interprétation des protestants qu'on retrouve, donc, comme nous venons de le dire aujourd'hui. Dans le deuxième canon sur l'extrême onction, voici ce canon. Si quelqu'un dit que l'onction sacrée des malades ne confère pas la grâce, ne remet pas les péchés et ne soulage pas les malades, mais quel est le charisme des guérisons, alors qu'il soit anathème. Il y a de vrais effets sacramentels. Et ces effets, vous venez de l'entendre, sont trois. L'effet de l'extrême onction est triple. Le Concile vient de les énumérer. D'abord, l'extrême onction donne la grâce. Et c'est une grâce de rémission des péchés. Elle remet les péchés. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'elle est la consommation du sacrement de pénitence. Le texte du Concile dit exactement « Elle efface les péchés s'il y en a encore à expier et les restes du péché. » C'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas priver les malades, quand ils arrivent à l'heure de la mort, de ce sacrement très nécessaire, très important, même si ce sacrement n'est pas obligatoire au sens strict, bien sûr. Deuxième effet, l'extrême onction soulage et fortifie l'âme du malade. Le texte latin de saint Jacques dit « alleviabit », soulage. Comment cela? En excitant en lui la confiance en la miséricorde divine. Donc l'âme est confortée, et c'est très important au moment où justement le diable attaque l'âme, au moment où la personne connaît des angoisses parfois terribles, parce que la mort est inconnue. Et puis enfin, le troisième effet, l'extrême onction rend la santé au corps. Mais ce troisième effet est secondaire, c'est un effet accessoire, et plutôt c'est le résultat indirect de la confiance en Dieu ranimée dans l'âme du malade par l'effet précédent. En vertu de cette confiance, le malade obtient quelquefois, pas toujours, quelquefois, si Dieu le juge expédient pour son âme, la santé de son corps. Enfin, pour terminer, disons un mot du ministre et du temps où doit être conféré ce sacrement. C'est le troisième chapitre développé par le Concile. Le Concile précise donc qui doit administrer ce sacrement et qui doit le recevoir et comment et quand. Concernant le ministre, ici encore, les protestants déforment le texte de saint Jacques. Ils comprennent que les presbytéroi, c'est le mot grec employé par saint Jacques, qu'on traduit de manière ordinaire par les prêtres, c'est la même étymologie. Pour eux, ce sont simplement les anciens par l'âge et par la dignité. Effectivement, étymologiquement, presbytéroi, ça signifie ancien. Mais l'Église l'a toujours appliqué aux prêtres. Donc les protestants pensent que ça peut être de simples fidèles, que cette onction décrite par saint Jacques ne nécessite absolument pas le caractère sacerdotal. Alors le Concile de Trente répond en disant que ces ecclésiés presbytéri, du texte de saint Jacques, désigne les prêtres régulièrement ordonnés et eux seuls. Et ça se comprend, l'extrême-onction est un vrai sacrement, puisqu'elle a la vertu de remettre les péchés. Il n'y a qu'un sacrement qui peut faire ça, il n'y a que Dieu qui remet les péchés. Alors, l'extrême-onction ne peut être donnée que par des prêtres au sens strict. Vous savez qu'il n'y a que deux sacrements qui peuvent être donnés par des fidèles. Le baptême, dans des cas de nécessité, et puis le mariage, parce que le mariage, ce sont les conjoints eux-mêmes qui se donnent mutuellement le sacrement. Mais tous les autres sacrements requièrent un prêtre ou un évêque. En second lieu, le concile détermine le sujet de l'extrême-onction. L'extrême-onction doit être conférée aux malades. Le texte de Saint-Jacques le dit, si quelqu'un est malade, c'est clair. Entre parenthèses, cela signifie que les fameuses extrême-onctions collectives qui sont données aujourd'hui dans l'Église conciliaire à toute personne qui a atteint un certain âge, sans qu'elle soit nécessairement malade, il suffit d'avoir l'âge requis, c'est évidemment invalide. Si ces gens ne sont pas malades, le sacrement ne peut pas opérer. Donc il faut que ce soit des malades. Et le Concile précise des malades atteints d'une maladie qui conduit à la mort, donc en péril de mort. Et même le Concile va plus loin en disant que c'est surtout aux malades qui sont en danger imminent de mort que ce sacrement doit être donné en priorité. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le donner à ceux qui ont un véritable péril de mort, qui sont dans une maladie qui conduit à la mort. Et même il ne faut pas attendre. Le catéchisme du Concile de Trente dit que ce serait une faute très grave d'attendre les derniers instants, parce qu'en agissant ainsi, on risquerait de faire venir le prêtre trop tard, après la mort. Et alors le prêtre ne pourrait plus donner le sacrement que sous condition. Et puis, si le sacrement est toujours efficace, puisqu'il agit ex opere operato, néanmoins, pour qu'il soit fructueux, c'est-à-dire qu'il donne en abondance, en surabondance, une grâce à l'âme, que l'âme puisse vraiment en profiter, il est souhaitable que le malade soit non seulement conscient, mais même qu'il soit le plus possible en possession de tous ses moyens. Il faut qu'il puisse recevoir le sacrement avec une foi vive, une piété vive. Donc il est très important de ne pas attendre le dernier moment. Et il s'ensuit que la réitération de ce sacrement est possible, à la condition cependant que le malade, entre-temps, soit revenu à la santé et qu'il soit retombé ensuite dans un nouveau péril de mort. Alors à ces conditions, on peut réitérer le sacrement des malades. Voilà l'enseignement du Concile de Trente sur ce sacrement. Vous voyez que c'est un très bel enseignement, ce sont des choses à connaître. L'Apocalypse, au chapitre 14e, a cette exclamation en parlant de la mort des justes. « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur !» Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et c'est pour qu'il en soit ainsi précisément, pour que le plus grand nombre d'âmes possibles meurent dans le Seigneur, que notre Seigneur a institué ce sacrement de l'extrême-onction et que l'Église fait un devoir grave aux prêtres de le conférer, ce sacrement, aux chrétiens qui sont en danger de mort. Alors il nous faut méditer ces vérités, parce que tous nous mourrons un jour et tous il faut désirer absolument pouvoir bénéficier de ces secours que le bon Dieu a prévus pour nos âmes. Il faut prier pour que toujours nous vivions en catholiques et pour que nous mourions dans la grâce de Dieu, munis des sacrements de notre Sainte Mère l'Église. C'est très important. C'est la grâce que nous demanderons tout spécialement à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.